intro sur les traîtres pour commencer ce podcast numéro 111. Je ne doute pas que vous avez la référence et que vous savez pourquoi j'ai choisi cette musique. Moi, c'est Plaque, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu, Thiergo?
La tête dans le cul, comme je te disais avant le podcast, parce qu'il est 7h du matin ici.
Mais est-ce que tu crois que ça nous intéresse, ça? On est là pour parler de Giants, on s'en fout que tu sois la tête dans le cul.
Bon, eh ben salut, à la prochaine, je retourne me coucher.
Pauvre Gauthier qui se réveille à 3h du matin pour enregistrer un podcast. Tout ça pour vous, cher public, pour
parler tout de... Ça, mais, tout ça, c'est la passion. Et pour parler de cette free agency qui a été absolument folle.
Ouais.
D'ailleurs, en fait, j'étais moi-même un peu surpris de la free agency parce que j'ai été tellement à fond côté boulot que hier, quand j'ai vu les tweets arriver, j'ai fait ah putain, c'est vrai, ça a commencé. Et puis forcément, ces nouvelles qu'on a vu passer, bonnes et mauvaises, et dont on va parler lors de cet épisode, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Ouais, ça a commencé à s'ouvrir, il était 17h en France, et j'avoue que entre 17 et 18h, c'était difficile de bosser parce que. Il y avait plein de trucs qui tombaient. À 17h02, on n'avait toujours pas d'annonce de move de Joe Shane, et donc les gens étaient en train de dire « ça y est, faut le virer, quel GM de merde, il est 17h10, il s'est toujours rien passé, il y avait des mèmes sur Joe Shane, etc. » Bref, le coup classique, hein, forcément, donc à la fois on lui demande de pas faire n'importe quoi et pas de s'enflammer, mais les gens voudraient aussi qu'il soit super actif tout le temps. En tout cas, il s'est passé des choses, nous sommes l'équipe qui a le plus dépensé sur cette première journée de Free Agency, et au moment où on enregistre ce podcast, il y a déjà des news sur la deuxième journée aussi, dont on pourra parler rapidement aussi, mais j'ai l'impression que beaucoup s'est joué en fait sur cette première journée pour nous, et je doute que l'on soit ultra actif sur la suite de la Free Agency, même si évidemment il va y avoir des signatures, des petits deals, des trucs comme ça, mais il n'y aura pas de grosses plages comme il y a eu avec Brian Burns, évidemment. Mon cher Thiergo, je te propose de commencer avec l'éléphant au milieu de la pièce, forcément, puisque c'est ce que tout le monde a envie d'évoquer.
Germaine, elle lui est mort.
De quoi? Oui, c'est ça.
Germaine, elle lui est mort.
Ouais, alors son nom, il est...
Et lui est mort ou quelque chose comme ça?
Mais mec, je sais même pas comment on prononce, mais on va devoir se débrouiller. Il va falloir que j'écoute 2-3 podcasts en anglais, que les Américains m'expliquent comment on prononce ce nom-là. D'ailleurs, c'est peut-être même pas eux qui le prononcent le mieux, mais bon, on va.
Il est anglais, donc a priori, c'est plutôt. Ah oui, en plus, c'est nos amis Roast Beef qu'il faut aller voir ça. Mais...
Ouais, on demandera à Giant Suke comment on prononce. Ouais. Bref, toujours est-il que la première chose que l'on a vu annoncer, très vite après le début de l'ouverture, donc je me souviens plus, mais ils n'ont pas le droit de signer vraiment, mais ils ont le droit de s'engager, enfin bref, il y a un truc comme ça. Toujours est-il que ça commençait vraiment hier à 17h, enfin donc lundi à 17h, et donc on a appris que Saquon Barkley allait signer chez les Eagles pour 3 ans, 37,75 millions de dollars qui peuvent monter jusqu'à 46,75 dépendant, j'imagine, de ses performances. Donc c'est le pire scénario, clairement, hein, on voulait pas imaginer ça. Donc qui partent, on va en parler, mais on n'a pas la même vision des choses. Qui partent, moi je trouvais ça logique. Qui partent chez les Eagles, pour le coup, c'est vraiment ça mon gros problème. Je te laisse t'exprimer, Thiergo, sur le sujet. Je sais que toi, tu étais très déçu de le voir partir. Moi, je l'avais dit dans plusieurs podcasts, vous savez mon avis, c'était la décision la plus logique. Dis-nous ce que tu as ressenti, tes pleurs, tes cris, comment ça s'est passé chez toi, et quel est ton avis un peu sur ce départ et cette signature de Barkley à Philadelphie.
Alors, c'est marrant parce que cette signature m'a ramené de nombreuses années en arrière.
Oh, je sais ce que tu vas dire, ça va être pareil pour moi, vas-y.
En 2011, tout à fait exact, quand les Giants étaient en discussion pour re-signer Steve Smith, receveur.
Ouais, ça te ramène à ça, putain, c'est marrant.
Bah oui, parce que Steve Smith était l'un des receveurs préférés d'Eli Manning, qu'il était extrêmement productif, il s'était malheureusement blessé, et à défaut d'accord, Steve Smith est parti chez les Eagles, avec quand même un goût amer, parce que tu sentais qu'il faisait vraiment ça par vengeance, et d'ailleurs il avait fait quelques remarques par rapport aux Giants. Enfin, tu vois, il était assez dégoûté que les Giants ne lui aient pas proposé un contrat, ce qui à l'époque était quand même assez logique parce qu'il s'était éclaté le genou et les Giants ne voulaient pas le payer comme un gros receveur. Donc la situation est un peu différente. Enfin, il y a des similitudes, mais le contexte global est différent parce qu'il y avait une blessure au milieu de tout ça. Pour ce qui est de Saquon Barkley, J'ai en effet toujours dit que j'aurais bien voulu qu'on le garde, pas à n'importe quel prix, ceci dit. Hein, pour moi, si on pouvait le garder à 11, 12 millions par an sur 2 à 3 ans, ça ne me dérangeait pas. Mais je m'étais un peu fait une raison en me disant, non, mais à tous les coups, il va y avoir une équipe qui va réussir à le signer à 14, 15 millions, et puis bah, ce sera tant mieux pour lui. Mais bien entendu, j'espère que ce soit tout sauf les Eagles. Et je m'étais dit que, bon, les Eagles, ils avaient peut-être un peu d'autres priorités que le running back, que, à moins qu'ils aient vraiment envie de nous faire chier, ils n'allaient pas nous prendre Saquon Barkley. Et Howie Roseman, bah, a décidé de nous faire chier. J'imagine que l'annonce de la retraite de Fletcher Cox lui a apporté un peu plus de cap space, donc il s'est dit, ah bah tiens, je vais prendre Saquon Barkley. Et en fait, ce qui me dégoûte
Et
surtout,
aussi leur centre Kelsey, hein, ils ont eu plusieurs retraites
oui,
coup sur coup.
non, mais en fait, je parlais pas de Kelsey parce que Kelsey, on l'a vu venir depuis longtemps, donc
Oui,
en effet,
bien
mais
sûr. Ouais, c'est vrai.
c'est juste que du coup, la veille de la free agency, t'as encore un peu plus de cash qui se libère, donc en effet, ils ont pas mal de cap space qui s'est libéré. Et en fait, je crois que, alors ça m'aurait de toute manière fait chier, quel que soit le prix que Saquon Barkley signe chez les Eagles, mais ça m'aurait peut-être un peu moins fait chier si ça avait été pour 15 millions durs, et non pas... Parce qu'en fait, il peut aller jusqu'à 15 millions avec des incentives, mais on
Même
sait
plus,
très bien
hein.
que... Ouais, bah, je crois, oui, ça fait
Ça
15
fait
millions et
15 et
des...
demi, ouais.
Ouais, voilà. Mais on sait très bien qu'il y a peu... Enfin, on connaît pas les incentives, mais à mon avis, il y a peu de chances qu'ils les atteignent. Mais tu vois, en fait, ce 12 millions, tu te dis, putain, en fait, il aurait pu rester chez nous et il serait pas parti chez les Eagles.
Ouais.
Après, bien entendu,
Alors du coup,
donc, et si
est-ce
on
que tu en veux aux
remet.
Giants ou aux Eagles de ça? Ou à ça, pardon, aux Giants ou à Saquon Barkley?
Alors, la décision, elle repose entièrement sur Saquon Barkley. Mais d'un côté, si tu retires l'émotion de tout ça et que tu regardes au fait que bah, c'est un professionnel, un joueur professionnel qui est l'un des meilleurs à son poste, qui s'est fait flouer par son équipe l'année précédente et qui en fait a une opportunité d'avoir un gros contrat, tu dis oui, bien sûr, c'est logique qu'il parte chez les Eagles. Hein. Je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui regardent cette transaction, ce choix de Saquon Barkley en disant bah, il a fait ce qu'il avait de mieux pour lui. Après, vis-à-vis de tout ce qu'il a dit par rapport aux Giants, je ferme ma carrière ici, je veux pas partir, etc. Bah, en effet, quand tu es un fan, tu te sens un peu floué en me disant bah, en fait, tout ça, est-ce que ça avait vraiment de la valeur parce que tu vas dans la pire équipe possible? Est-ce qu'on aurait ressenti la même chose s'il était parti chez les Cowboys? Peut-être. Chez les Redskins, un peu moins. Mais en dehors de la NFC East, bon, on n'aurait absolument pas ce ressentiment. Mais après,
Non,
maintenant,
c'est clair,
on est
ouais, je
aussi
suis d'accord.
conscient que le choix de Joe Shane de le laisser passer, de le laisser partir, ça nous ouvre des possibilités pour nous renforcer ailleurs et on va pouvoir en discuter dans
Ouais.
quelques instants. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça?
Bah, moi, je pense que c'était le choix logique, que on revient encore à ce fameux, cette fameuse discussion, fallait-il le prendre en choix numéro 2, machin. Bon, bah, j'ai l'impression que, du coup, vu ce que ça a donné chez nous, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. C'était pas le joueur clé qui nous a permis de retourner cette franchise et de revenir sur le chemin de la victoire. Et bon, non, voilà, ça paraît maintenant assez logique de se dire que c'est effectivement rare que ce soit un running back qui te redresse une franchise à lui tout seul, à peu de choses près. Surtout qu'on a appris dernièrement que Gettleman a eu des calls pour l'échanger, ce pick numéro 2, pour récupérer un, voire deux premiers tours de draft, et qu'il a même pas décroché le téléphone tellement il était sûr de lui. Donc ça, pour moi, c'est quand même très très limite. Mais bon, bref. Et donc il est logique que Joe Shane n'allait pas re-signer à ce prix-là. Il l'avait dit, on le savait que Joe Shane était. Joe Shane, il joue beaucoup sur la valeur des postes. Pour lui, le poste de running back n'est pas un poste sur lequel ça mérite de mettre de l'argent. C'est pas une premium position sur lequel il faut aller mettre 10, 15, 20 millions de dollars. Le poste de outside linebacker, pass rusher, l'est clairement, puis on en parlera tout à l'heure, et pareil que running back, le poste de safety ne l'est pas. Et donc, dans sa tête, c'était assez clair, je pense, hein, même malgré ce qu'il a dit, et de toute façon, un GM ne va pas dévoiler ses cartes et montrer à tout le monde ce qu'il va faire. Il savait qu'il n'allait pas faire de gros efforts, et donc il avait très peu de chances de garder ces joueurs-là. D'ailleurs, le transition tag sur McKinnon n'aurait pas été suffisant non plus. On a eu des discussions avec certains sur Twitter aujourd'hui. Toujours est-il que le fait de le laisser partir, c'est une chose. Le fait que lui aille signer tout de suite, directement, en 3 secondes, sans trop réfléchir, chez l'équipe qui lui propose le plus gros contrat, et donc qui tombe chez les Eagles, qui est l'ennemi juré. Alors, comme tu l'as dit, il disait quelques semaines avant, moi, je veux rester là, machin, je veux faire ma carrière chez les Giants. Ça, c'est foutage de gueule. Il s'est mis tous les fans à dos, et pour une grosse partie de la fanbase des Giants, ce mec n'existe plus. C'est, je veux dire, on n'entend plus parler de lui. On va être encore plus dégoûté, puisqu'évidemment, on sait ce qui va se passer. Il va venir jouer ses 2 matchs chez nous, enfin, un match chez eux, un match chez nous contre nous, et bien sûr qu'il va mettre un TD, et bien sûr qu'on va être vénère, et ils vont nous battre, et ça va être terrible. Donc, voilà. Autre scénario possible. Il se blesse au bout de 3 matchs, puisque rappelons-le quand même, il a été énormément blessé pendant ces dernières saisons quand il a joué chez nous. Donc voilà,
après,
moi c'est
avoir
plus
une meilleure ligne offensive, hein, donc c'est
il
ça.
Va avoir aussi une... Ouais, mais les blessures, c'est pas trop lié à la ligne offensive non plus. Je veux dire, une blessure, ça peut arriver. Il y a une de ses blessures, il se blesse tout seul.
Oui, non, bien sûr, mais.
Parce que quand tu repenses au Super Bowl, je sais plus quel joueur qui rentre sur le terrain, il est sur la ligne de touche, il fait 3 pas, il se blesse tout seul, il est touché par personne.
Ouais, mais ça, il risque ça, de faire des meilleurs. C'est de la malchance qui dépend
malchance,
pas, en fait, de ton histoire de blessure. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, dans la mesure où il a une meilleure ligne offensive, je m'attends aussi à ce que ce soit un joueur qui soit moins en train de danser sur place et qui, du coup, se blesse moins. Parce que c'était contre les Bucks qui s'était blessé il y a quelques années, je crois, où en fait...
Il y a eu les Bears, il y a eu plusieurs...
Ah non, c'est les Bears, c'est ça. C'est en fait, il est en train de danser derrière la ligne parce que la ligne est en train de rien bloquer pour lui. donc après, je suis d'accord avec toi. En effet, tu peux avoir une très belle ligne offensive et te blesser quand même. Il a une histoire d'être un joueur extrêmement fragile et ça fait aussi partie de la décision de Joe Shane.
Bien sûr.
En fait, je vais pas mettre autant d'argent sur ça alors que je vais en tirer très peu de matchs et très peu de production. Ouais, c'est quand même là. Je veux dire, aujourd'hui, la pilule passe mieux qu'elle n'est passée hier, mais ça fait
oui.
Chier.
Et ça me fait doucement rire quand je vois un peu sur tous les réseaux sociaux, ils mettent waouh, Saquon qui part aux Eagles et ils te montrent des vidéos soit de sa saison rookie, donc c'est Eli Manning qui lui envoie des passes et qui lui fait des end-off, soit de ses courses à Penn State. Alors tu dis ok les gars, c'est bien beau, mais c'est plus Saquon, c'est pas ce Saquon là que vous allez avoir, hein. Il est plus comme ça Saquon maintenant. Donc il est très bon, aucun souci, c'est un bon joueur. Encore une fois, pour moi, la passe, il est pas du tout au niveau de ce qui pourrait être en tant que running back, même s'il y a eu quelques belles actions, mais il est plus explosif comme il l'était avant, et on l'a dit plein de fois, les courses de 50 yards qu'on a vues pendant ces 2 premières saisons, on n'en a pas revu depuis, donc c'est clairement pas le joueur qu'il était, et pour les Eagles, franchement, je suis curieux d'écouter le podcast des Eagles, voir ce qu'ils vont en dire, est-ce qu'ils sont contents ou pas. À mon avis, ils pensent aussi que c'est un petit peu cher payé pour un joueur comme ça, et running back, quand t'arrives vers la trentaine, bon, il est encore long, il a quel âge, 26 ans, c'est quoi, 27, 26 ?
Non, mais 27. Ils seront contents de nous avoir foutu le seum.
Voilà, ça par contre, c'est exactement ce que j'allais dire, ils seront sûrement très contents pour ça, et ils ont raison. Enfin, je veux dire, si on avait piqué un joueur qui est un peu la face, le visage de la franchise des Eagles, ça nous aurait fait bien rigoler aussi. Maintenant, je suis pas sûr que ça change leur équipe du tout au tout, quand on voit leur niveau de fin de saison, c'était quand même assez catastrophique, c'est pas Saquon qui va changer grand chose à ça. Voilà, ça veut pas dire qu'ils vont pas être bons l'année prochaine, mais voilà. Donc en tout cas, pour moi, Saquon, c'est un joueur que j'adorais, j'étais quand même lucide sur son niveau, mais pour moi, c'est voilà, il a pas marqué l'histoire des Giants et il la marquera jamais, ça c'est sûr.
J'ai failli acheter son maillot l'année dernière.
T'imagines, t'aurais acheté McKinnon et Barkley.
Et bah justement, ça nous fera une bonne transition vers McKinnon. En fait, j'avais décidé finalement d'acheter celui de Dexter Lawrence. Parce qu'il avait signé un long contrat.
Oui,
j'ai pas
pris
sur Barkley parce que c'était en franchise tag. Ouais,
tu as été malin. Qu'est-ce que tu as été malin. Alors juste, je voudrais rajouter un tout petit truc parce que tu l'as évoqué et j'ai peur d'oublier de le dire. Tu disais que le fait qu'il se blesse, ça fait partie des raisons pour lesquelles Joe Shane ne l'a pas re-signé. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que dans tous les joueurs qu'il a signés hier, c'est tous des joueurs qui se blessent très 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 peu, qui ont manqué maximum 2 matchs sur les 2 dernières saisons. Donc ça, c'est une constante et je trouve que c'est très malin de la part de Joe Shane de faire rentrer ça dans la balance des joueurs qu'il va signer. Donc on en parlera peut-être, mais je l'avais en tête et je voulais l'évoquer parce que j'avais peur de potentiellement l'oublier. Ok, bah voilà, donc est-ce que je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus sur Saquon Barkley, c'est
Va te faire
retournement de veste
enculer.
absolu, va te faire enculer, on va pas être méchant comme ça, mais oui, clairement, j'ai pensé des choses comme ça hier, tu demanderas à ma copine ce que j'ai pu dire, je ne répéterai pas ça à l'antenne, voilà. Et donc le deuxième move qu'on a appris juste après, et c'était à ce moment-là, en fait, on n'avait pas fait grand-chose de notre côté, c'est du coup, mais c'est pas la première fois qu'on a ce genre de free agency où ça commence par des signatures, on se dit, oh là là, c'est terrible, tout se passe mal. Et finalement après bon on arrive à signer des joueurs évidemment c'est normal mais donc Xavier McKinney qui part chez les Packers donc voilà cette fois-ci il sort de la NFC Est 68 millions de dollars pour 4 ans ce qui fait une moyenne de 17 millions par an là aussi même histoire Joe Shane ne mettrait pas une somme pareille sur un safety et donc le transition tag qui était à 12 millions n'aurait servi à rien puisqu'il ne se serait jamais aligné. Donc là, c'est quand même un peu plus décevant parce que pour le coup, lui, il n'était pas en baisse de régime contrairement à Saquon Barkley. Il était plutôt au meilleur de sa forme après cette blessure à la main un petit peu bête il y a 2 ans. Il a fait une super fin de saison et c'est vrai que lui, pour le coup, on aurait vraiment bien aimé le garder. Donc ça a fait un trou dans le roster, mais voilà. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Et bon, voilà, j'imagine que tu aurais aimé aussi le garder. Forcément, t'allais pas dire
Alors,
on le laisse partir.
le transition tag n'aurait servi à rien, mais dans la mesure où on a utilisé le tag sur personne, ça ne coûtait pas non plus grand-chose
De le positionner, oui, c'est vrai.
de le positionner. Et ça, c'était un choix de la part de Joe Shane qui m'avait un peu interrogé, parce que je me dis, bah, en fait, tu as la possibilité de mettre un tag, à la limite, essaye, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Mais ça veut peut-être justement dire que... Dans l'esprit de Joe Shane, il n'y avait aucune chance que Xavier McKinney ne reçoive pas une offre en dessous d'un certain montant et que lui n'était pas prêt à aller jusqu'à ce montant-là.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Quand on voit la valeur de Xavier McKinney, en effet, moi, je comprends tout à fait que Joe Shane n'ait pas voulu re-signer parce que c'est extrêmement cher pour un safety, même si faut bien le dire, hein, McKinney, c'est un jeune joueur qui a joué 100% de ses snaps l'année dernière,
Ah, ça c'est
qui
incroyable,
est
ouais.
extrêmement polyvalent et prend l'un des top 5 safety de cette ligue. Donc, ce que je disais hier, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est que nos deux meilleurs joueurs de cette équipe ont quitté les Giants, hein, parce que offensivement, c'était... Enfin, nos deux meilleurs free agents, parce que nos deux meilleurs
Oui,
joueurs,
et parce que
notre,
j'étais en train de me dire, attends,
voilà.
je vais lui tomber dessus avec des Star Lawrence
Non,
dans
non,
2
non,
ans,
non,
mais vas-y.
il y a Andrew Thomas et Dexter Lawrence, mais je veux dire, c'est que on a perdu deux joueurs qui ont extrêmement de valeur.
Deux
Et
cadres en tout
Xavier,
cas, ça c'est clair.
voilà, et Xavier McKinney, bien sûr que j'aurais préféré qu'on le garde à ce prix-là. Bon, tant mieux pour lui qu'il a aille ailleurs. Je suis néanmoins assez inquiet du niveau de notre backfield, parce que même si Jason Pinnock nous a fait une bonne saison l'année dernière et que Ben Belton aide un peu de temps en temps, je pense aussi qu'ils ont eu des bonnes prestations parce qu'il y avait quelqu'un comme Xavier McKinney qui était là pour assurer les arrières de tout le monde.
Ouais, alors
Donc.
je suis pas d'accord avec toi sur la saison dernière. Il jouait très très peu en deep safety. Il était plutôt en strong safety, voire linebacker parfois, corner. Donc le safety au fond du terrain était très 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 rarement McKinney l'année dernière. Il l'a fait beaucoup,
Non,
il y a
oui,
plusieurs saisons, et c'est là où il a fait ses plus d'interceptions. Et l'année dernière, c'était pas le cas.
mais dans la mesure où en fait tu n'as plus un McKinney dans ton effectif, ça veut dire que tu vas devoir utiliser un Jason Pinnock ou un Ben Melton. Alors, faut voir aussi comment est-ce que Bowen
C'est
compte
ça, c'est
utiliser
ça.
les safeties. Mais
Et attention, la free agency n'est pas finie, Thiergo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a vu beaucoup de safety qui sont fait soit dégager de leur équipe, soit qui n'ont pas été re-signés. Et qui sont, on va pas dire peut-être pas aussi bons, mais qui sont à un niveau pas loin de McKinney, plus vieux, et qui vont coûter beaucoup moins cher. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura personne pour le remplacer non plus.
Non, je pense qu'on trouvera quelqu'un. C'est juste que sur la saison 2024 là qui s'annonce, je pense pas qu'on trouve quelqu'un du même niveau. Peut-être
Non,
quelqu'un
pas
de
du
plus
même niveau,
vieux
c'est sûr.
qui soit un peu moins bon, mais qui sera sur la pente descendante. Donc ça veut dire qu'aussi sur le long terme, tu as un problème que tu devras régler à cette position. Bien entendu, on dit le safety, c'est pas une position premium en comparaison à d'autres positions style pass rusher ou cornerback. Ça reste néanmoins une position que tu peux pas non plus totalement ignorer. Donc, attendons de voir ce qui va se passer sur le reste de cette free agency. Peut-être que ce sera aussi un poste qui sera adressé pendant la draft. Mais bon, tout ça pour dire que du côté de McKinney, on perd un très grand joueur qui va avoir une belle carrière devant lui. Après, vu le prix, il n'y a, y a pas trop de regrets. Et je crois que nos amis fans des Green Bay Packers, eux, sont absolument ravis de cette signature et on les comprend.
Ouais, bah c'est voilà, c'est un super joueur jeune qui se blesse peu, voilà, à part quand il fait le con en
Blessé.
quad pendant ses vacances.
Voilà.
Mais sinon, non, c'est un très bon joueur et c'est voilà, une super acquisition de leur part. Maintenant, on en revient toujours à la même chose. Où est-ce que tu veux mettre ton argent? Et clairement, pour lui, Josh Allen. À mon avis, Josh Allen doit avoir une liste quelque part où il dit pour tel poste suivant chaque saison, je ne mettrai pas plus de temps, à moins que le joueur soit vraiment
Bah,
exceptionnel et.
au moins ce qu'on voit, c'est qu'il a beaucoup plus de méthode que Dave Gettleman.
Ah mais
Dave
ça, mais alors
Gettleman,
clairement
tu sentais
mec, mais
qu'il y allait au doigt
100%.
mouillé, quoi.
Ah mais c'est tellement ça. Il y a une vraie direction, c'est on veut des joueurs intelligents, pas des gros idiots qui font n'importe quoi avec, tu vois, du genre à sortir des flingues en soirée ou genre de trucs comme on a pu entendre des histoires avec des DeAndre Baker, etc. Qui se blessent peu. Enfin, il a un profil de joueur et clairement les joueurs qu'il va rechercher quand il va signer des joueurs chez les Bills, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est des joueurs qu'il a déjà analysés et qui correspondent exactement à ce profil de joueur-là. Et donc il mise sur ça. Et il a aussi un montant maximum pour certains types de joueurs. Il va pas mettre n'importe quoi, n'importe où. Donc il a une vraie méthodologie, je suis 100% d'accord avec toi. Enfin, moi je suis plus rassuré qu'un mec comme ça, plutôt qu'un Gettleman qui va dans toutes les directions et qui construit son roster n'importe comment, quoi. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Mais bon, en tout cas, voilà, déception, effectivement, McKinney, moi je l'adorais et c'est triste de le voir partir. En tout cas, on a réussi. Donc pour l'instant, on n'a pas compensé ce départ de McKinney, mais on a plus ou moins compensé, et là je sais que tu as eu quelques discussions sur Twitter hier, Thiergo, le départ de Saquon Barkley par Devin Singletary, qui est un joueur qui ne se blesse pas, qui est running back, qui a été drafté par les Bills il y a 4 ans, attends, je regarde, en 2019.
Il y a 5
Et
ans, ouais.
qui fait des stats quand même très correctes, qui a l'année dernière joué à Houston pour sa cinquième saison. Il a fini la saison avec 898 yards, il est même à plus de 900 avec les playoffs. Et qui est un joueur qui est très bon pour éviter les plaquages et qui a une moyenne de yards gagnés. Alors là, qui est supérieure à celle de Saquon Barkley, mais là, pour le coup, je pense que la O-line y est pour beaucoup. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette signature? Tu es un petit peu moins convaincu que moi, je pense. C'est clairement pas un running back 1 en puissance comme pouvait l'être Saquon Barkley, mais je pense que ça va changer la donne dans la manière dont on va utiliser nos running backs et qu'on risque de plus faire tourner là où Saquon Barkley est joué 95% du temps et que les autres, on les voyait jamais.
Bah, ce qui était sûr, c'est qu'avec le départ de Saquon Barkley, il nous fallait un nouveau running back. Donc, Devin Singletary, pardon, pourquoi pas. J'ai pas eu, depuis hier, j'ai pas eu l'occasion plus que ça de regarder un peu ce qu'il a fait l'année dernière à Houston. Mais les stats sont pas dégueulasses. Ce que je disais, c'est que tu vois, par rapport à Saquon Barkley qui a joué moins de matchs, au final il fait quand même un peu moins, mais ça c'est lié à tout un tas de différents facteurs. Comme tu l'as dit, Saquon Barkley est beaucoup plus utilisé au sein de l'attaque des Giants. On avait aussi un jeu qui pouvait moins dépendre de la passe par rapport à ceux des Texans qui, eux, avaient un jeune rookie qui fonctionnait plutôt bien, tandis que nous, on était avec Daniel Jones, Tommy DeVito et Tyrod Taylor. Et puis, la ligne offensive, je ne sais pas ce qu'elle voit à Houston, mais c'est aussi le facteur principal qui va déterminer le succès d'un running back ou pas. Je me rappelle, en fait, moi, ce que je disais, c'est, oui, je me rappelle de quand Devin Singletary était bon il y a 15 ans, parce que j'ai l'impression qu'il est dans la ligue depuis un moment. Et en effet, ça, je pensais surtout à ses premières années à Buffalo, où c'est un joueur qui a l'air quand même plutôt complet, qui a de bonnes mains. Donc, est-ce que Kafka pourra en faire la même utilisation que Saquon Barkley en faisant, comme tu le dis, tourner un peu plus l'effectif? Ça, ce qui va être intéressant à voir. Et comme on vient de le dire, bah, vu que Josh Allen a un peu une échelle de valeur sur okay, quels sont les postes qu'il faut privilégier, bon, il a mis un peu d'argent sur le running back sans en mettre trop.
Oh
Je
bah
sais
c'est
pas.
léger, c'est 5 millions, c'est que dalle.
Ouais, c'est oui, bah oui, c'est sûr que par rapport aux 12 millions par an de Saquon Barkley, c'est rien du tout. Et en fait, cet argent a été alloué à la place à des joueurs de ligne offensive qui manquent terriblement à New York. Bien sûr, hier, moi, j'étais dans la déception et je disais, bon, pff, ok, super. Tu voyais tout noir. Aujourd'hui, le tableau est un peu plus nuancé que ça. Je continue à penser que, en termes de talent, on n'est pas sur du Saquon Barkley, mais en termes de valeur, on est sur quelque chose qui est tout à fait correct et qui, on l'espère, nous permettra d'avoir un jeu de course qui complémente bien le quarterback, quel qu'il soit.
Ouais, moi je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on est bien au-dessus de ce que peut nous rapporter un Saquon Barkley, ça y a aucun doute. Et juste pour info, je suis en train de regarder les matchs qu'il a joués, Singletary. Alors, match joué en 2020, 16 matchs, match joué en 2021, 17, match joué en 2022, 16, match joué en 2023, 17. Donc sur les trois dernières saisons, il a raté un match. C'est quand même assez ouf pour être signalé pour un running back, je pense. Et du coup, tu parlais de la O-line, alors effectivement, la O-line, on a signé deux joueurs, on a signé... Alors là, c'est encore des noms improbables. John Runyan, qui nous vient des Packers, qui est garde. Et on a signé, donc tu l'as évoqué tout à l'heure. Ah merde, j'ai pas mis son nom. Comment il s'appelle déjà? Je croyais avoir.
Jermaine Eluemunor. Tu l'as pas mis dans le.
Ah si, je l'ai mis. Je suis justement sur mon article de récap. Si, si. Ah ouais, c'est ça.
2 ans, 14 millions.
Jermaine Eluemunor. Ok, 2 ans, de 14 millions.
Je sais pas
qui
si
lui est. Oui, vas-y, vas-y.
Ouais, bah, je sais pas si t'as vu ses tweets, donc il vient d'Angleterre, et en fait, il raconte que le premier match NFL qu'il a vu, c'était en 2007 à Londres, c'était Giants contre les Dolphins, match qu'on a
gagné.
Ah, tu
y étais, non? C'est pas celui-là où t'étais?
Non, pas moi, ce match-là? Moi, j'étais à Giants Packers avec toi en 2022.
Ah, mais je croyais que t'étais allé avant, d'accord, ok, je me
souviens. Non, okay. J'y étais allé avant, il y a quelques années, c'était San Diego Chargers contre Tennessee Titans.
Ok, bref.
Il me semble que c'était ça.
Donc il a vu les Giants jouer la première fois. Ouais. Okay.
Et voilà, et c'était son premier match de NFL. Et il dit, bah, c'est ça en fait ce qui m'a motivé, ce qui l'a lancé dans ce sport. Et bon, apparemment, il faut croire que c'est un bonhomme avec un certain gabarit, puisqu'il s'est retrouvé aux US à jouer en NCAA. Et puis maintenant, c'est un titulaire. Ou en tout cas un joueur qui contribue assez régulièrement en NFL.
Ouais.
Donc,
il est assez, il est capable de jouer garde. J'ai vu en fait ses stats sur les dernières saisons. Il a joué garde et tackle quasiment à égalité. Il a fait les deux. Enfin, c'est assez ouf.
Ouais.
Ce qu'il a pu faire. Et tu disais que c'était son premier match, etc. Je sais pas si t'as vu son tweet ce matin. Il dit, oh, je me suis levé ce matin, je reviens toujours pas, je vais à New York, c'est incroyable. Enfin, le mec a l'air ultra heureux de se retrouver là. Ah ouais, c'est clair, ça fait plaisir.
Et surtout, ce qui est cool, c'est qu'en fait, il va rester avec son coach de ligne offensive, puisqu'il arrive des Raiders et qu'on a recruté Carmen Bresilo des Raiders pour la ligne offensive. Donc, a priori.
C'est évident que ça va peser dans la balance et que le mec a dit, moi je veux ce mec-là, il est bon et il va nous être utile, c'est évident.
Et donc en fait, il va être dans un environnement qui lui sera favorable avec des techniques de blocage qu'il connaît, une technique de coaching avec laquelle il est familière. Donc, j'espère que c'est un joueur qui pourra contribuer sur la ligne offensive assez régulièrement.
Ah bah, pour moi, à mon avis, c'est starter day one, qui soit, alors que ce soit en garde ou en tackle, et que Evan Neal passe en garde et que lui passe en tackle, c'est possible aussi. Mais à mon avis, clairement, les deux, vraisemblablement, qu'on vient de citer, devraient jouer. Alors pour info, je suis en train de regarder aussi les stats, donc PFF, qui lui mettent pas une note PFF incroyable, mais l'an dernier, il a fait 574 blocs de passe, 22 pressions et seulement 2 sacs, donc c'est très honnête par rapport à... Nous, il y a des mecs qui ont fait pire en un seul match, hein. On a des gardes qui ont pris plus que 2 sacs en un seul match, donc c'est assez cool de voir ça. Il est apparemment, John Runyan, très bon sur le couverture, enfin le bloc de passe, un peu moins bon sur la course, il serait peut-être un peu léger a priori de ce que j'ai vu, ou un peu moins puissant que certains. Bon, j'ai l'impression qu'on a quand même plus besoin d'avoir quelqu'un qui s'est bloqué pour un QB que pour ouvrir des brèches à la course. Donc en tout cas, c'est deux signatures qui pourraient... être très impactant sur cette O-line. C'est pas la signature d'un top, top, top comme on aurait aimé, puisqu'on va en parler juste derrière, et c'est notre prochain sujet, ça va être le top joueur qu'on a signé. Mais ça reste quand même solide, et je sais pas, mais ça me rappelle quelqu'un qui avait dit, moi je serais plus d'avis à aller signer du vétéran qui a déjà fait ses preuves et qui est bon, qu'à d'aller signer du rookie à la draft. Tu te rappelles ou pas? Il y a pas un mec qui a dit ça un jour?
Je sais pas, est-ce que c'est moi qui dis ça?
Non, c'est moi qui dis ça,
Ah,
je l'ai dit 10 fois, t'abuses! Oh là là, t'abuses. Bref, tu veux dire autre chose sur ces deux joueurs-là? Moi, je trouve que c'est des signatures qui sont intéressantes.
On a évoqué John Runyon? Je t'ai pas entendu
Bah
parler
oui,
de lui.
j'étais en train de parler de lui à l'instant, j'étais en train de parler de lui en
Ah,
fait.
excuse-moi. Bah,
Oh là là, il est fatigué, Thiago, oh là là!
il est 7h30, il va me faire un autre café. John Runyon, que dire de lui? J'ai demandé à nos amis de Packer France, Packer FR, ce qu'ils pensaient, et je vous dis ce qu'ils nous ont partagé. Meilleur en protection que sur jeu de course, polyvalent, mais loin d'être indispensable. Après, il n'était pas aidé par notre centre non plus. Le plus gros plus, c'est qu'il ne se blesse jamais, à voir dans un autre contexte et à quel poste il va jouer. Il était
Franchement, ça me
aussi
va, hein. Ça me va, ce que tu
Left
décris.
tackle au collège, si je ne me trompe pas. Il était dans une rotation cette saison, n'a pas montré ce qu'il faisait pour être starter et indispensable, encore au tarif annoncé hier. Donc en fait, j'ai le sentiment que pour nos amis des Packers, ils se disent, bon, nous on ne l'aurait pas re-signé à ce prix-là, mais ça reste un joueur tout à fait correct.
Ah mais
Donc.
peut-être que dans leur O-line, c'est comme ça, mais dans la nôtre, c'est, je pense, un starter quasiment assuré, quoi. Et
Ah bah, de toute
encore une fois,
façon, on part de plus bas, c'est sûr, ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Donc.
Seulement 2 sacs l'an dernier, mec, et il se blesse pas. Il l'a dit, tu vois, il l'a dit, voilà. Moi, je pense que il vient de décrire un joueur qui peut être starter dans notre O-line, en fait. Et c'est un upgrade en tout cas par rapport à ce qu'on a. Et le fait de pas se blesser, rappelle-toi, là, tellement la galère, on était l'équipe qui avait le plus de combos différents de joueurs, tellement on a eu de blessés dans notre O-line. C'est super d'avoir un mec comme ça. Ça veut pas dire qu'il va pas se blesser, hein, mais c'est super d'avoir un mec comme ça. Donc,
Non, on sent au moins que on a fait un upgrade sur la ligne
ouais,
offensive
c'est clair. Ouais.
et puis en effet ça va être ultra important parce que on a besoin de protéger notre QB, on a besoin d'ouvrir des brèches pour notre running game. Pour le coup, la seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que jusqu'à présent, Joe Shane n'a pas montré qu'il était un très bon évaluateur de talent sur la ligne offensive.
Ouais.
Si tu regardes Evan Neal et Mark Lewinsky, ça fait un peu peur. Alors on espère qu'il se rattrapera et que c'était juste des erreurs de parcours, mais c'est sûr que le passé pour Joe Shane sur cet aspect-là n'est pas très rassurant.
Ouais, Glowinski, ça venait combler des trous et il a un peu pris ce qu'il pouvait avec le cap qu'il avait. Evan Neal, je crois qu'il n'est pas le seul. Enfin, je veux dire, s'il l'avait pas pris, il était pris 2 tours après Evan Neal. Donc bon,
Oui,
là, on peut
mais en
pas
fait,
trop
tu
lui en
vois,
vouloir non plus. Et
Glowinski, ce qui est dingue, c'est qu'on l'a signé en disant, oui, bon, c'est un joueur qu'on signe avec le peu de cap qu'on a, donc
oui, c'est ça.
on a très peu d'attentes pour lui. Et sauf que Glowinski a été pire que le très peu d'attentes qu'on avait pour lui, quoi. Donc,
Ouais.
c'est pour ça.
Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Joe Shane ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du coach de la O-line? Je me permets de douter.
Non, alors, il y a aussi un aspect coach O-line, mais coach O-line, là, ça reste aussi la responsabilité de Joe Shane et de Brian Daboll. Je veux dire, au bout d'un
Ah
moment,
oui, ah bah c'est sûr.
le general manager est general manager,
Ah
donc
oui, bien
il est
sûr.
responsable des joueurs qu'il a signés.
100%.
Maintenant, je suis d'accord avec toi, on a a priori signé un coach de O-line qui a une bien meilleure réputation dans la NFL et qui devrait améliorer les choses. Et on vient de signer deux joueurs qui sont largement au-dessus des joueurs de ligne offensive qu'on a, à part peut-être Andrew Thomas, et c'est tout, quoi.
Oui, on a un seul joueur qui est correct pour l'instant. Mais non, mais je suis d'accord avec toi. Bon, en tout cas, donc à ce moment-là, on se dit, bon, ok, on a fait des signatures, c'est un petit peu chaud. Et là, on voit pointer le bout du nez une rumeur de Brian Burns qui serait une cible des Giants. Apparemment, les discussions sont en cours et tout se passe bien. Ils se seraient mis d'accord sur les échanges, puisque ça, c'est un joueur qui n'était pas free agent, mais il se serait mis d'accord sur quel pick échanger ou quel joueur échanger, et il ne restait plus qu'à définir un contrat, puisque Brian Burns avait été tagué par les Panthers un tout petit peu avant. Brian Burns, on rappelle, l'année dernière, les Panthers avaient refusé de la part des Rams un deuxième tour de draft et deux premiers tours de draft pour le
Oui,
garder
aussi
une
un
saison de
deuxième
plus.
tour de draft.
Ouais, il y avait un deuxième
Ah.
tour en plus. Tout ça
Ah.
pour faire une saison à deux victoires catastrophiques. Et donc là, ils l'ont signé, ils l'ont tagué, évidemment, dans l'objectif de le revendre. C'était clairement le cas. Et donc, on apprend juste après que Josh Allen, je pense que pour moi, c'est la première vraie grosse, sans compter le contrat de Daniel Jones, mais c'est la première vraie grosse signature et la première fois aussi qu'il a un peu les moyens de faire une grosse signature. Et donc, il signe un contrat, Brian Burns, inside linebacker, pass rusher, 5 ans, 150 millions de dollars, dont 87,5 garantis.
141. 150, c'est ce qui est sorti au début, mais en fait, c'est 141
Ah,
millions sur.
pardon, ok.
Mais bon, on est pas très loin. C'est-à-dire qu'au lieu de toucher
Oui,
30 millions par an, il en touche 28 millions.
oui. Ouais.
Oui, ça reste une très très grosse signature.
Pour le joueur qui était le la star chez les Panthers, hein, avec son petit délire Spider-Man, l'araignée, c'est. Voilà, c'est. En tout cas, à lire ce que les fans des Panthers écrivent sur les réseaux, ils sont ultra dégoûtés de le voir partir. C'était pour eux un joueur pilier de leur effectif et ils sont super dégoûtés.
Ouais, c'est clair que c'est assez impressionnant. En fait, je lisais sur Twitter que la compensation qu'on a eue, elle est quasiment équivalente, enfin la compensation qu'on a donnée aux
Ouais.
Panthers pour avoir Brian Burns est quasiment équivalente à ce qu'on a reçu des Seahawks contre Leonard Williams, puisqu'on
Oui,
rappelle
c'est ça.
qu'ils nous ont donné leur choix de deuxième tour et un cinquième tour, tandis que là, en fait, on a donné notre premier choix de deuxième tour, donc le 39e choix overall aux Panthers, donc c'est un peu meilleur que ce que les Seahawks nous avaient donné, plus un choix de cinquième tour en 2025, et il y a un échange de choix de cinquième tour en 2024. Donc pour faire simple, on va dire c'est un deuxième tour et un cinquième tour pour Brian Burns, ce qui est vraiment une belle affaire vu le prix que tu as annoncé l'année dernière. Et puis pour ce qui est de l'extension de contrat, ouais, c'est assez dingue de se dire que comme ça, d'un coup, tu as 141 millions de dollars qui partent pour ce joueur-là, mais il n'a que 26 ans. Donc ça veut dire que quand il aura terminé son contrat, il sera tout juste du mauvais côté de la trentaine. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Et bien entendu, encore faut-il qu'il aille jusqu'au bout de son contrat. En regardant un peu les chiffres, les Giants, en fait, sont vraiment loqués avec Brian Burns pour 3 ans. Parce qu'ils peuvent le couper à partir de la troisième année et faire une petite économie, mais ils se tapent un montant de dead money qui est absolument indécent. Donc je doute qu'on le coupe avant les 3 ans, à moins que tout soit absolument horrible, qu'il soit tout le temps blessé, enfin que ce soit le scénario qu'on appellera Daniel Jones.
Catastrophe. Non, 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 on l'appellera pas comme ça. Et juste un truc aussi, ce que j'avais lu des trucs là-dessus, c'est que souvent ce qui se passe quand t'as des gros contrats comme ça sur des 4-5 ans, c'est que généralement, et c'était le cas avec Leonard Williams, tu as un contrat qui impacte peu ton équipe sur les premières années et qui finit par exploser à la fin. C'était pour ça qu'on était un peu coincé avec Leo Williams, c'est qu'on arrivait dans des plus de 30 millions sur des. Voilà. Alors que son contrat au tout début était très faible. Donc ça peut être intéressant quand tu as un contender pour le Super Bowl dans les premières années, que tu veux te garder du cap et tu te dis, bon, en gros, tu balayes la merde sous le tapis et tu te dis, on verra dans 4 ans ce qui va se passer, il sera bien temps d'en discuter. Là, c'est pas le cas, puisqu'en fait, on a un contrat qui est assez plat et qui est quasiment, en gros, à peu de choses près, à 28-30 millions tous les ans. Alors, il augmente un petit peu, mais c'est léger. Et ça, c'est pareil, c'est une des caractéristiques de Josh Allen. Il fait souvent ça et il fait en sorte de pas se mettre tout seul dans la merde pour les années à venir. Donc, c'est aussi une bonne manière de gérer le futur et pas de se dire je vois à court terme sur 2 ans et puis de toute façon dans 3 ans je serai plus là donc ce sera le problème du GM d'après donc voilà je trouve que c'est aussi intelligent dans la manière de faire je sais pas ce que t'en penses moi je trouve que c'est plutôt sain de gérer un contrat comme ça.
Oui, et puis il y a aussi le plafond salarial qui augmente chaque année. Donc,
Exact.
en fait, on espère, là pour le moment, avec le plafond salarial qu'on a, le salaire de Brian Burns correspond à un peu moins de 11%. Enfin, au plus fort, ce sera 11% du cap. En fin de contrat, ce sera 9,7%. Donc on est à 10-11%, ce qui est pas dégueulasse pour un jeune joueur du moment qu'il est productif. Oui, niveau structure de contrat, je suis absolument pas inquiet. C'est plutôt bien géré et on a des portes de sortie qui sont à notre disposition si on a besoin de s'en servir. Donc Brian
Et
Burse, si on parle un peu plus juste du joueur, j'ai regardé un peu ce qui valait sur le terrain et j'ai l'impression qu'en fait c'est quand même un bon mix de vitesse et de puissance. Tu vois, il est assez polyvalent niveau rush. Donc je suis assez enthousiaste à l'idée de le voir aux côtés de Dexter Lawrence qui a été
De
drafté.
Dexter Lawrence et Thibodeau, mec, ça va être
Voilà.
nos trois joueurs de D-line, c'est assez violent, hein.
Et comme je disais, Brian Burns a été drafté juste avant Dexter Lawrence. En 16e
Ok.
position lors de la draft 2019, c'était Brian Burns qui était drafté par les Panthers. Et puis après, les Giants ont drafté Dexter Lawrence. Ouais, ce combo-là, plus Thibodeau en tant que rusher, ça va être top. Et ça fait l'année dernière, on espérait que Aziz Ojulari puisse en fait apporter un peu de pass rush aux côtés de Thibodeau. Il s'est rien passé. Là, du côté de Brian Burns, je m'attends clairement à ce que ça se passe comme ça et qu'on ait enfin un pass rush qui soit digne de ce nom.
Ouais, complètement. Et la dernière fois qu'on a eu deux pass rushers de ce niveau-là, c'était la période Super Bowl, hein, les années 2010. Hein, c'était depuis, ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu ça. Donc là, il est dans sa carrière, et donc il fait 7 sacs et demi, 9 sacs, 9 sacs, 12 et demi et 8. Il a 46 sacs. Donc je crois que la dernière fois, j'ai vu ça, la dernière fois qu'on a eu un joueur dans notre effectif qui avait plus de 40 sacs en carrière. C'était avec comment il s'appelle notre ami qui est parti aux Buccaneers après, qui s'est fait exploser
Jason
la main avec des feux
Pierre-Paul.
d'artifice, Jason Pierre-Paul. Ouais.
Ouais.
Donc tu vois, ça remonte quand même sacrément et ça fait du bien d'avoir ça. Et c'est pas impossible que Thibodeau arrive dans les mêmes zones et donc avec deux joueurs qui sont autour des 10 sacs qui sont en plus capables de défendre contre la course. Ça peut être vraiment très cool. Et juste pour info, puisqu'on en a parlé, donc le nombre de matchs joués par ce joueur en 2019, c'est 16, 16 sur 16. En 2020, c'est 15. En 2021, 17 sur 17. En 2022, 16 sur 17. Et en 2023, 16 sur 17. Donc là aussi, encore une fois, un joueur qui ne se blesse quasiment pas. C'est miraculeux, c'est incroyable de se dire qu'on a chopé des joueurs comme ça. C'est quand même très cool.
Ouais, tout à
Sans
fait.
déconner, avoir un effectif avec des joueurs qui se blessent pas, mais mec, si ça se concrétise chez nous, parce que les mecs évidemment peuvent se blesser, je sais pas, ce serait vraiment terrible, on aurait vraiment pas de chance, mais je trouve que c'est vraiment trop intelligent de prendre ce truc-là en compte, donc bon, bref. Je vais arrêter de
Oui,
jeter des fleurs à Josh Allen, mais.
et puis aussi, si je dis pas de bêtises, il me semble que les responsabilités d'André Patterson, le coach de la D-line, ont été un peu élargies au pass rush. Donc quand on voit le travail que Patterson a fait avec Dexter Lawrence et le reste de la D-line, si il a maintenant sous sa houlette Kayvon Thibodeau et Brian Burns, bah ça promet.
Ah, c'est clair.
Y a un énorme potentiel. Et puis quand tu regardes notre front seven de manière plus globale, donc tu as Dexter Lawrence, Thibodeau, Brian Burns, Okereke, McFadden qui en second couteau, qui certes n'est pas au niveau de Okereke, mais peut bien aider s'il apprend à plaquer correctement. Le seul point faible que je vois dans ce front seven, c'est que on n'a pas un deuxième D-line de la cabine d'Ashen Robinson pour le moment.
D'ailleurs, Ashon Robinson qui vient de signer ailleurs, hein, on vient de le
Voilà,
voir, hein,
c'est oui,
malheureusement.
voilà, il vient de partir chez les Panthers, donc il va peut-être falloir trouver quelqu'un, comme tu as dit tout à l'heure, la free agency n'est pas terminée, mais ce serait pas mal de trouver quelqu'un à mettre aux côtés de Dexter Lawrence pour que ça pousse un peu au milieu de la ligne offensive et qu'on puisse plaquer Saquon Barkley derrière la ligne d'engagement aussi souvent que possible.
Ouais, et oublie pas que tu peux avoir aussi complément avec Ojulari qui peut aussi rentrer en plus sur certaines occasions. Il n'est pas parti Ojulari, donc
Non,
ça
il n'est
peut
pas
aussi être
parti, mais
intéressant.
du coup maintenant Ojulari, je vois plutôt, alors qu'avant je le voyais comme un titulaire, maintenant pour moi c'est juste un joueur de
Ah bah
rotation.
clairement. Ah bah évidemment. Ah bah là, il n'y a aucun doute, c'est évident. Mais c'est intéressant d'avoir un Ojulari en rotation. Écoute, je crois qu'on a pas mal fait le tour. Peut-être la seule chose qu'on pourrait évoquer, c'est la signature de Drew Locke qui vient de. Voilà. Bon, Tyrod Taylor est parti pas très loin puisqu'il a été chez les Jets. Donc il va. Je pense qu'il n'a pas besoin de déménager pour le coup. Et donc, on l'avait signé l'année dernière, Tyrod Taylor, où il y a 2 ans. En tout cas, c'était 5,5 millions par an son contrat. Je me demande si c'était pas 2 ans et 11 millions. Et là, Drew Locke, donc il est parti pour 2 ans chez les Jets à 18 millions, donc c'est un contrat bien supérieur. Mais en même temps, il a montré qu'il avait le niveau.
Tyrod
Et
Taylor,
les
tu veux
Jets,
dire.
oui, Tyrod
Ouais.
Taylor, et les Jets avaient un énorme problème de QB remplaçant l'an dernier. C'était une catastrophe chez eux depuis que comment il s'appelle
Aaron Rodgers
Oh,
s'était
putain,
blessé.
je mange son nom. Aaron Rodgers s'était blessé derrière, il n'y avait personne, c'était la cata. Donc là, je pense qu'ils se sont dit pas deux fois la même erreur et ils ont bien raison. Donc là, ils ont vraiment mis de l'argent. Et donc voilà, Josh Allen, encore une fois, sur un QB2, je ne mets pas autant d'argent, mais il a trouvé quelqu'un pour 5 millions. Donc Drew Lock qui signe 1 an pour 5 millions. J'ai lu partout et tout le monde le dit, ça ne change en rien les plans qu'ont les Giants sur la draft. Parce que tout le monde dit, ah bah, on a signé un QB, c'est sûr, on prendra pas un QB au premier tour. Moi, je suis pas du tout sûr de ça.
Non, absolument pas, ouais, je suis d'accord.
Et on va pas en parler aujourd'hui, mais ça veut pas dire qu'on va pas signer un QB avec notre pick 6.
Mais d'ailleurs, alors, on va pas y passer trop de temps parce que c'est déjà fait, mais je voudrais juste avoir ton avis sur ces 2 jours avant la free agency où en fait beaucoup de monde s'est demandé si les Giants allaient signer Russell Wilson. Est-ce que toi, tu aurais voulu qu'on signe Russell Wilson?
Bah, t'as vu combien ils l'ont signé, les Steelers? 1,5 million. Bien sûr que j'aurais voulu qu'on signe Russell Wilson à ce prix-là. Pourquoi non? Pourquoi tu dirais non?
Ouais, alors en fait c'est marrant parce que moi Russell Wilson, alors c'est un excellent joueur qui a remporté en plus son Super Bowl à New York. Enfin, c'est pas que je suis pas fan du garçon, mais c'est pas un gars que je voulais absolument à New York. Et
Ah,
puis en
moi non
fait,
plus! Moi non plus!
quand les Broncos l'ont libéré, ont annoncé qu'il libérait et que t'as tous les podcasteurs de la sphère New York Giants qui ont commencé à en parler. J'ai écouté plein de trucs et puis je me suis auto-convaincu que ça pouvait être une bonne idée. Et un point que j'avais trouvé intéressant, c'est que oui, bien sûr, tu pouvais avoir Russell Wilson au minimum vétéran parce que vu que pour ceux qui n'ont pas suivi, vu que les Broncos devaient encore lui payer 39 millions de dollars, si touchait le minimum vétéran ailleurs. Eh ben, les Broncos devaient quand même lui payer les 39 millions de dollars, moins le salaire qu'il touchait ailleurs. Donc en fait, là, les Broncos sont plus que 37,5 millions à lui
Waouh,
payer. Donc tu avais la
quelle
possibilité
économie!
d'avoir un top 10 quarterback pour le minimum salarial pour 1 an. Et en fait, quel est l'intérêt d'avoir ça quand tu as Daniel Jones et quand tu vas peut-être drafter un QB haut, et ben le point que j'avais trouvé ultra intéressant, c'était de se dire, bah déjà Daniel Jones, c'est à peu près sûr qu'on l'aura pas prêt en début de saison, malgré ce que dit Josh Allen. Josh Allen est en train un peu de brouiller les pistes en disant oui, il est en avance sur son rétablissement, blablabla, mais bon, ça, on demande à voir. Mais ce qui aurait été intéressant, je trouve, c'était d'avoir Russell Wilson comme titulaire, Daniel Jones comme QB2. Et quand même la possibilité de drafter un quarterback, soit au premier tour, soit au deuxième tour, pour être sur le banc et apprendre tranquillement. Bon, c'est pas comme ça que ça va se passer, puisque il a très vite décidé de signer chez les Steelers, mais c'est vrai que ça aura pu quand même pas mal impacter nos plans pour
Ouais, c'est
l'intersaison
clair.
si on s'était retrouvé avec Russell Wilson à New York.
Ouais, il a fait une visite chez nous apparemment, mais bon, c'était pas suffisant. Et puis les Steelers, c'est bien pour lui, parce que aussi pour lui, en fait, dans tous les cas, ils auraient été payés partout pareil. Il y a plus d'avenir chez les Steelers où il peut potentiellement être très impactant dans une équipe qui depuis des centaines d'années ne fait pas de saison avec des bilans négatifs. Donc je pense que c'est une bonne équipe pour atterrir là-bas pour lui, c'est intéressant. Et il sera mieux là-bas qu'à New York, en tout cas, je pense. Bon, en tout cas, voilà, tu vois, on met 5 millions sur un Drew Lock. Évidemment que 1,5 million pour un Wilson, j'aurais dit oui. Ok, et eh ben écoute, est-ce que juste on va aller checker, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose entre-temps sur. Je pense pas, mais on va juste vérifier au cas où avant de raccrocher. Ah, ce serait trop con qu'on ait signé un truc de malade, mais. Non, a priori, non, je ne vois pas. Bon, écoute,
Ouais,
tant
moi non
mieux. Eh
plus.
ben, on va s'arrêter là. Twitter, ça me fait des trucs bizarres. Maintenant, il me met pas les tweets les plus. Les plus récents en premier, il met des merdes, des trucs pourris avec des vidéos nulles, ça devient n'importe
Oui,
quoi.
bah
Bref!
c'est oui. C'est l'onglet pour vous qui ne sert absolument à rien. Moi, à chaque fois que je vois des fans des Giants qui postent des théories complètement farfelues et débiles, tu sais, c'est des fans américains qui disent, l'autre jour, il y a un type qui a fait croire qu'on avait signé un gros receveur alors que c'était pas vrai. Moi, je vais sur l'onglet masqué et comme ça, je ne le vois
Ah
plus
oui.
dans ma timeline.
Ouais.
Mais ouais, non, il se passe rien. Affaire à suivre. Tiens, juste une note parce que je vois que les Dallas Cowboys sont en train de tweeter. Mais qu'est-ce qu'ils font à Dallas? Ils ont pas l'air de faire grand-chose. Ils ont signé quelqu'un depuis hier?
Bah je non, j'avoue que j'ai pas trop suivi. Alors les Eagles, ils étaient à 88 millions dépensés hier, donc ils étaient quand même assez actifs. Et Dallas, non, j'ai pas vu. Il y a un Edge qui est barré. Non, j'avoue que j'ai pas trop suivi ce qui s'était passé.
Ouais, bon.
Je ne peux pas te dire. Bon, écoute, hein, ils font leur merde dans leur coin. Peu importe, on fera le bilan plus tard. Eh ben, écoute, on se refera un point si jamais il se passe d'autres choses. En tout cas, c'était, je pense, nécessaire parce que c'était tellement dense hier comme journée. Donc, on avait besoin de faire ce podcast et faire un point sur tous les moves qu'on a eu. Évidemment, il y en aura d'autres. Et évidemment, d'ici la draft, il y aura encore des podcasts puisqu'on va bien évidemment faire une preview et essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer. Et on sera très dépendant de ce qui va continuer à se passer pendant cette free agency. Merci Thiergo, merci à tous d'avoir suivi et à très bientôt sur Un Legend Podcast. À plus tout le monde, ciao!
Salut!